Professeur Kangou Delphin, bonjour. Merci d'accepter de répondre à nos questions. Nous allons aujourd'hui faire un petit bilan d'étape de la gratuité de l'enseignement au Congo-Kinshasa. Avec la démocratisation du pays, les pouvoirs publics ont plus ou moins abandonné le secteur de l'enseignement. Et les parents, avec la société civile, les écoles, se sont organisés pour prendre en charge l'éducation des enfants en acceptant de contribuer à une prime pour les enseignants. À l'arrivée du pouvoir actuel, il y a un peu plus d'un an, il a été décidé d'appliquer cette disposition constitutionnelle qui fait de l'enseignement fondamental un droit élémentaire et qui le rend gratuit. Comment est-ce que vous avez accueilli cette décision émanant du chef de l'État, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo?
Oui, en fait, ce que nous aurions voulu, c'est qu'on aurait pu préparer calmement cette gratuité. On devrait commencer progressivement. D'abord, penser à la construction des écoles qui devraient donc contenir tous ces enfants. Améliorer les conditions sociales de l'enseignant, c'est-à-dire lui payer un salaire décent qui lui permette de tenir le coup, de nouer les deux bouts du mois. Et quand on aura construit les écoles, les équiper, équiper les écoles, et après avoir équipé l'école, commencer la formation des enseignants, le recyclage. Ici, je vois chaque année, il y a des réformes. Ce sont des réformes qui viennent d'une manière brutale. En fait, parce que ces gens, moi, je n'ai pas honte de le dire, ils ont eu l'argent et ils cherchent comment justifier. Et voilà, ils vont créer des surprises là. Ils vous invitent à des formations brutales pour lesquelles ils vous imposent certaines choses. Normalement, l'État devrait s'asseoir et se mettre d'accord avec les techniciens de l'éducation, les spécialistes. Avec ce genre-là, on devrait voir comment commencer. Commencer progressivement, d'abord avec les degrés élémentaires et même avec les préscolaires et maternels. On devrait commencer avec le degré élémentaire. La première année, évidemment, tout ça, on aura d'abord construit, on aura occupé les classes et les écoles, on aura donné une formation aux enseignants pour que ceux-ci ne se sentent pas en marge de la mondialisation. Aujourd'hui, les enseignements peuvent se donner à distance. Aujourd'hui, vous allez voir des enseignants qui ne savent même pas ce que c'est un ordinateur. Ils ne savent pas ce que c'est un clavier. Tout ça, ce sont des choses que notre gouvernement devrait préparer. Il devrait normalement s'asseoir, comme dit la Bible, avant de construire, asseyez-vous, rassurez-vous que vous avez tout, le sable, le tôle, tout ça, avant de commencer votre construction. Ne commencez pas une œuvre que vous n'allez pas terminer parce que vous n'êtes pas assis pour voir quels sont tous les paramètres qui peuvent vous y aider à réussir. Donc, le gouvernement devrait penser à cela. S'asseoir, voir les pour et les contre, tous les avantages, tous les désavantages, et essayer de travailler durement, travailler en amont pour essayer de mettre en œuvre cette gratuité. Aller progressivement, commençant par les classes élémentaires, le degré élémentaire, le deuxième cycle, et enfin le troisième cycle, et jusqu'à aller au secondaire. Maintenant, on vous amène des réformes qui n'ont pas de sens. Nous avons le premier, ici au CMS par exemple. Les premiers sont devenus le septième, le deuxième, le huitième. Mais toutes ces écoles n'ont pas encore commencé ça. Ils vont commencer ça quand, entre-temps, c'est l'enseignement à deux vitesses. L'État devrait bien préparer cette gratuité en essayant de travailler avec des techniciens, des gens qui sont des vrais pédagogues, et pour voir comment résoudre ce problème. En tout cas, c'est vrai que nous sommes très contents. En tout cas, je ne cesserai de le répéter, la gratuité est irréversible, mais elle devrait être préparée, voir tous les paramètres du côté pédagogique et du côté social. Vous savez que on dit ventre affamé n'a point d'oreille. Vous allez donner un salaire de misère à un enseignant que les enfants veulent étudier. Il sera en classe, il va commencer à s'amuser avec les enfants et il n'y aura pas un enseignement de qualité. Or, les enfants doivent avoir tous une éducation de qualité, une éducation de qualité.
Si je vous comprends bien, de votre point de vue d'enseignant et de praticien de terrain, cette réforme a été précipitée. Mais vous pensez que le politique qui a pris ces décisions n'est pas entouré de gens compétents, n'a pas autour de lui des conseillers qui auraient pu échafauder un scénario qui soit meilleur que ce à quoi nous avons affaire actuellement.
Vous savez que l'État, en parlant de cette gratuité, il veut donner un salaire aux enseignants. Mais ce salaire est à plusieurs zones. On parle de plusieurs zones salariales. L'État ne comprend pas comment un enseignant de Kisantu peut payer une maison. Il se trompe. À Kinshasa, les enseignants touchent le triple du salaire d'un enseignant de l'intérieur. Ici, à Kisantu, vous avez au moins une idée. Il y a des enseignants qui habitent Kimbala et qui doivent chaque jour prendre le taxi pour venir enseigner. Il y a des enseignants qui habitent Mbanzangungu. Pour des raisons de sécurité, ils doivent quitter Mbanzangungu pour venir enseigner. Ils doivent payer le transport. Mais on dit non, à l'intérieur, ces enseignants n'ont pas besoin de salaire. Ils restent chez eux, ils peuvent dormir dans des bicoques et tout ça. Les enseignants, nous payons de l'eau, nous payons de l'électricité. Et le salaire n'est pas uniforme. Il y a des zones salariales. Et ça ne peut pas motiver les enseignants. Si l'État veut que cette gratuité réussisse, comme je l'ai dit tout à l'heure, commencez par s'asseoir et aller aussi progressivement. Mettez les enseignants à l'aise. Les parents sont contents d'envoyer leurs enfants à l'école, mais ils oublient qu'ils sont des partenaires. Il y a des parents qui disent, qui croisent les bras. Bon, comme il y a la gratuité, ils sont partenaires d'une école. On est en train de voir des fosses septiques en train de s'écrouler. Mais non, ils le regardent, ils disent non, c'est la gratuité, l'État va donner de l'argent pour le fonctionnement de l'école. Mais c'est pas vrai. C'est pourquoi, parents, nous les appelons les partenaires éducatifs, parents, enseignants, élèves, tous, on devrait se mettre d'accord, on devrait aller mollo, mollo, comme on le dit, pour que cette gratuité puisse porter du bon fruit. Les politiques ne s'est pas fait entourer des bons conseillers. Il aurait pu se faire entourer de bons conseillers et étudier la chose avec profondeur. Vous savez que tout au début, moi je disais à certains enseignants, je dis, un enseignant, c'est quelqu'un qui a une vocation, qui doit savoir prendre l'enfant par la main. Beaucoup ont appelé cette gratuité la gravité de l'enseignement. Ça signifie, ils ont vu que cette gratuité était pour eux une sorte de porte-malheur. Donc le politique a précipité les choses, n'a pas pu vouloir associer d'autres partenaires et des conseillers qui pouvaient donc aider à ce que cette gratuité puisse avoir de bonnes racines et bien commencer. Comme je l'ai dit tout haut, il faudra qu'on se penche sérieusement sur ce dossier de la gratuité. Vous savez qu'il y a des élèves qui viennent, qui se disent « la gratuité, donc je dois absolument passer les classes ». Même si je n'étudie pas bien en classe. Et comme les enseignants ne sont pas bien payés, certains vont bâcler les enseignements. Il faudra éviter ça. Nous voulons que cette gratuité quand même puisse arriver à construire le pays. Un enseignement de qualité, il peut être gratuit, mais s'il est de qualité, ce sera un bon enseignement. La gratuité, nous la voulons tous, mais que le politique se fasse entourer des techniciens. Mais sinon, je crois que le politique doit comprendre que pour réussir, il faut aller avec les enseignants. Ils ont fait beaucoup de promesses, mais qu'ils ne réalisent pas. Il y a eu beaucoup de projets pour augmenter le salaire de l'enseignant, des rencontres de Mboudi, des rencontres de Maïs Sissé qui s'entourent, tout ça, ça n'a pas porté du fruit parce que les politiques sont égoïstes. Il est plus égoïste, il ne comprend pas que il faut aimer son... Parce que tout ça, c'est l'amour. Dieu nous a créés pour que nous puissions nous aimer. Et si nous ne pouvons pas mettre le parfum d'amour dans tout ce que nous faisons, nous ne pourrons pas réussir.
Cette notion de zone salariale a consacré une forme d'injustice entre enseignants des villes et enseignants des campagnes.
Effectivement, cette création de différentes zones salariales a créé une grande injustice. Quelqu'un qui est à Kisantu, qui paye les logements, qui paye la régie des eaux, qui paye la SNEL, touche 5 fois moins que quelqu'un qui est à Kinshasa ou à Matadi. Ce n'est pas raisonnable. Et pourtant, tous donnent les mêmes enseignements. ça crée beaucoup de remous dans les milieux des enseignants. Et je crois que c'est ça qui va beaucoup faire échouer cette gratuité. Si l'État et les politiques veulent qu'on réussisse, il faut qu'ils brisent cette chaîne et qu'ils prennent tout le monde au même pied d'égalité. Les politiques doivent éviter des zones salariales. Il faudra qu'il y ait le même salaire pour tout enseignant et pour tous les grades. Vous savez qu'il y a des gens qui ont fait longtemps dans l'enseignement et qui sont payés comme quelqu'un qui a été engagé hier. Et ce qui décourage aussi, c'est le fait qu'il n'y a pas de mise en retraite dans l'enseignement. Et pourtant, c'est bien la gratuité, former de nouveaux enseignants. Mais au moins, mettez ceux qui sont déjà fatigués ou qui ont pris beaucoup de temps de l'enseignement en retraite. À ce moment-là, on réussirait beaucoup de choses.
Concrètement, pour vous-même, en tant qu'enseignant, votre pouvoir d'achat avec cette gratuité, elle a baissé de combien de pourcents à peu près?
Il faut être honnête. Le pouvoir d'achat a baissé, je pourrais dire, de 180%. Moi, je suis ici, je vois. Vous savez que je suis enseignant. Heureusement, je sais encore faire un petit chant. Sinon, mais il faut voir comment les enseignants souffrent. Donc, le pouvoir d'achat a baissé de 180%. 180%, et si je le dis sans exagérer.
Au jour le jour, comment est-ce que les enseignants se débrouillent pour s'en sortir?
Moi, par exemple, si je prends heureusement, mon épouse est encore forte, elle peut encore faire un petit chant avec derrière notre maison. Sinon, c'est impossible de tenir le coup, de nouer les deux bouts du mois. Il suffit de prendre déjà la facture de la SNEL et de l'énergie des eaux, tous les 150 000 CEDEF que vous avez eu à la fin du mois sont partis. Donc c'est vraiment, vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas. Nous vivons par miracle. Vous savez que vous allez voir que quand je disais que quand les enseignants sont très bien payés, ils peuvent bien donner de bons enseignements. On a des enseignants qui sont des cumulards, qui sont ce qu'on appelle ici des extra-moroses. S'ils ne font pas ça, ils ne peuvent pas s'en sortir. Bon, ceux qui sont un peu intelligents, ils font un peu de chant, mais sinon c'est tout le monde qui est devenu cumulard. Il doit faire l'extra-morose, il doit enseigner à gauche, à droite, pour sinon il ne sait pas s'en sortir. Vous verrez des enseignants qui donnent cours dans 4-5 écoles différentes. Ils sont là. Parce que s'ils restent dans la même école, ils ne pourront pas s'en sortir. C'est vrai que le salaire est l'unique de l'école où vous êtes engagé. Mais dans d'autres écoles, ils vont chercher les miettes. Ils vont avoir des miettes. Et si certains, s'ils n'ont pas un cœur solide, ils se laissent dans des magouilles.
Dans ces conditions, vous affirmez que la qualité de l'enseignement doit avoir énormément baissé.
Je le dis, ça je le dis avec conviction. Je vous ai dit tout à l'heure que nous sillonnons dans des écoles. Et heureusement que dans ces écoles, on essaie de relever donc la qualité de l'enseignement. La qualité de l'enseignement a baissé. Parce que quelqu'un qui va dans une école pour enseigner et attendre les miettes, il ne pourra pas bien donner son enseignement. La qualité a baissé. Vous savez, les enfants qui ne savent même pas écrire ou qui ne savent pas lire, vraiment la qualité de l'enseignement a baissé. Et puis, la qualité a baissé, le fait qu'il y a beaucoup d'écoles, beaucoup d'écoles qui naissent. Parce que les écoles étaient devenues donc des business. Toutes ces écoles, les anciens ne donnent pas bien des cours. Toutes ces écoles privées, en tout cas, il y en a qui donnent très bien des cours, mais il y a beaucoup d'écoles privées, c'est le business. Et à la fin, on s'arrange pour donner un diplôme à un enfant qui ne sait même pas écrire son nom.
Est-ce que les écoles privées continuent à proliférer ou bien ces écoles sont en train de fermer actuellement?
Disons, ils n'ont pas encore commencé à fermer, hein. Mais ils étaient contre parce qu'en fait, ils ne voulaient pas cette gratuité parce qu'ils savaient que les parents vont faire partir leurs enfants de ces écoles pour les mettre dans des écoles publiques où ils ne paieront rien. Et comme je le disais, si on donne un enseignement de qualité, ces écoles n'auront plus lieu d'exister. Ils auront du mal à exister. À un moment, ils se sont battus, ils vous ont voulu compliquer la situation parce qu'en fait, pour eux, gratuité, et s'il y a un bon enseignement, les parents vont faire partir les enfants pour les mettre dans des écoles où la gratuité existe et il y a un bon enseignement. Quand je parlais de l'enseignement de qualité, pourquoi j'insistais sur ça? C'est parce qu'en fait, S'il y a eu les enfants, les parents, pardon, mettaient leurs enfants dans des écoles privées, c'est parce que les écoles publiques ne donnaient pas une bonne formation. Certaines écoles publiques donnaient une bonne formation, quelques écoles, des associations, les écoles des Jésuites par exemple, les écoles de Père Frère Mariste et tout ça. Mais les écoles qu'on appelait les Athénées, c'était une formation bâclée. C'est comme ça, les privés en ont profité pour créer les écoles et ils avaient comme politique bien payer l'enseignant pour qu'il donne quand même une bonne formation. Et maintenant, si l'État prend les choses à main avec la gratuité, il paye bien l'enseignant, l'enseignant donne bien ses enseignements, je crois que on ne va plus envier les écoles privées.
Lorsque le politique crée des zones salariales, de facto et mécaniquement, il crée une division entre les enseignants. Et donc, à partir du moment où on a deux zones salariales, les enseignants qui sont privilégiés, entre guillemets, auront du mal à s'associer avec ceux qui ne sont pas privilégiés pour faire des revendications. En décrétant l'enseignement gratuit, on est sûr d'avoir l'adhésion des parents, l'adhésion du peuple, qui de censé n'accepterait pas que l'enseignement soit gratuit. Ce qui, mécaniquement aussi, met les enseignants dans une situation de précarité. Parce que dans ces conditions, vous ne pouvez pas organiser un mouvement de grève ou une revendication qui sera directement très mal vue par le reste de la société et qui va vous taxer de vouloir maintenir l'ordre ancien dans lequel des parents se décarcassent pour contribuer à cette prime. Donc il y a pour moi là une forme de perversité dans le chef de politique, dans sa façon de gérer ce problème-là. Quel est votre avis là-dessus?
Vous avez raison, tout à fait. Ce qui fait que quand quelqu'un est privilégié, on lui demande d'aller en grève, il n'ira pas. C'est ce qui se passe avec les enseignants de ville. Déjà bien avant ça, avant la grève, les enseignants de Kinshasa, par exemple, n'aimaient pas, ils étaient tout le temps divisés. Parce qu'à Kinshasa, il y a des écoles où les parents payaient très bien, il y a d'autres où les parents ne payaient pas bien. Ils n'acceptaient pas, ils étaient tout le temps divisés. Mais avec cette création de zones salariales, les enseignants n'auront pas la force de revendiquer. Je prends le petit exemple ici chez nous à Kisantu. Les gens de Matadi, ils ne veulent pas entendre parler de grève. Mais à Kisantu, on veut parler de grève. Parce qu'on n'a pas le même salaire. Ça, je crois que c'est une politique pour diviser et pour essayer un peu de mettre les gens sous leur dépendance, à mon avis. La complexité de la chose, c'est que tous ces enseignants qui sont à l'aise, qui sont très bien payés, ils ne voudront pas aller en grève parce que eux, la grève ne signifiera plus rien. Et les politiques sont malins. Ils savent que les gens de grandes villes peuvent se manifester. Et là, on voit les répercussions. Mais ceux de zones rurales, bon, on s'en fout. C'est comme si dans les zones rurales, ces mêmes enseignants n'ont pas les mêmes diplômes qu'ont les enseignants des villes. Je crois que c'est quelque chose pour laquelle on devrait lutter. C'est pourquoi nous avons dit tout au début que il fallait que les gens se mettent autour d'une table, ce soit pour réfléchir autour de tous les paramètres pour pouvoir réussir cette gratuité. Sinon, ça sera toujours à Kinzanvouette, on est en train de bouder, et à Bukangalonzo, on se réjouit, à Kinshasa, on fête, et à, je ne sais pas, Matari Kibala, je ne sais pas dans quel pays, dans quelle ville, on boude. Vous savez que le politique est très malin, il est très malin. Tout ça, il joue sur les esprits. Il sait qu'en créant cette différence des zones salariales, il sait aussi que généralement ce sont les enseignants des grandes villes qui peuvent se soulever, ceux de la campagne, on s'en fout. Je crois que c'est une politique qui n'est pas bonne. Qui n'est pas bonne. Et c'est là où nous avons dit que il faudra que les politique cesse de jouer au jeu de cache-cache. Ils doivent être francs. Sinon, ce sont eux qui rendent la situation difficile de leurs propres frères.
À votre avis, professeur, qu'est-ce qu'on pourrait faire actuellement? Qu'est-ce que vous demanderiez aux politiques pour rattraper la situation?
Ok, merci. Je crois qu'aux politiques, je leur demanderai d'être francs. être franc, ça signifie éviter ces différences, ces discriminations. Qu'ils prennent la chose au sérieux et qu'ils donnent un bon salaire aux enseignants, qu'ils luttent pour la construction des bonnes écoles et qu'ils pensent à la formation des enseignants. Ça donnera donc de la valeur à l'enseignant et on évitera donc la mendicité de certains enseignants auprès des parents. Moi, je pense que c'est tout ce qu'il faut faire. C'est ce que je leur demanderai. Qu'ils évitent cette différence de salaire. Que tout le monde soit payé de la même manière. Le politique essaie un peu de valoriser l'enseignement. Parce que quand même, l'enseignant, c'est quelqu'un qui se bat. Et qu'ils comprennent qu'être enseignant, ce n'est pas une vaste blague. C'est une vocation. Parce que si vous n'avez pas la vocation d'enseigner, vous n'allez pas réussir à transformer l'homme, à le façonner. Je crois que les politiques doivent penser à cela et qu'ils mettent tout le monde au même niveau. Ça faciliterait les choses. Qu'ils puissent normalement soutenir cette action en essayant d'allouer un bon salaire naturellement aux enseignants.
Professeur, est-ce que vous auriez un mot de la fin avant de nous séparer?
Merci, je voulais dire que Dieu nous bénisse, que Dieu bénisse le Congo, que Dieu bénisse la gratuité, hein, en espérant qu'elle va porter du bon fruit à la prochaine occasion.